Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est différent de cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi l'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, vous dites galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Scène de vie, vie de scène, le numéro de janvier 2016. Bonjour Cécile, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors cette année, nous poursuivrons à prendre le temps de parler du spectacle vivant, mais pas seulement, et d'ouvrir en tout cas à toute la programmation locale, et puis un peu plus, hein, parce que nous sommes comme ça, nous aimons aller traîner un peu plus largement.
Oui, où nos yeux et nos regards curieux nous emmènent sur des sujets qui peuvent aller du spectacle vivant au cinéma, aux arts plastiques, voilà, tout ce qui pour eux vous donne envie d'aller voir ce qui parfois n'est pas forcément visible du premier abord.
Justement, ce mois-ci, nous parlerons cinéma.
Avec Pierre Carniaux, que nous aurons au téléphone. Pierre Carniaux, qui est le programmateur cinéma de la scène nationale Évreux-Louviers, puisque janvier sera cinéma ou ne sera pas.
Très bien, nous parlerons bijoux et nous parlerons Elsa Triolet.
Oui, nous avons rencontré et pu avoir l'avantage et le privilège d'une visite guidée avec Florence Calame Levert sur l'exposition des bijoux d'Elsa Triolet.
Exactement, une longue rencontre, une visite guidée personnalisée que nous avons décidé de partager avec vous quand même.
Oui.
Bien entendu, nous ferons le tour de l'agenda non exhaustif de ce qui se passe autour de nous. Et nous terminerons cette émission avec notre traditionnel extrait de film.
Oui, puisqu'en 2016, c'est une nouvelle année qui débute. Les meilleurs vœux de l'équipe de Scène de vie, vie de scène à nos auditeurs. Et puis, on garde les bonnes idées et cet extrême de film, à chaque fois, nous emmène dans des sujets ou dans des films où on redécouvre d'ailleurs des fois des réalisateurs et des souvenirs aussi de films de patrimoine.
Et puis, tu parlais de tradition à Scène de vie, vie de scène. Nous avons une autre tradition, c'est l'extrait sonore de début d'émission.
C'est peu courant, hein, ce domaine.
Ah ouais, mais justement, c'est très joli et on en a besoin.
Et oui, alors que nous sommes tous qui aiment pour être un fou, pour des valeurs, hein,
le droit à la paresse, c'est ça, de prendre le temps.
Allez-y.
Je vous en prie.
Bonjour.
Alors, ça va ?
Ouais.
Bonjour.
Bonjour.
L'équipe de Principe Actif. On accueille avec grand plaisir.
Voilà, c'était l'équipe de Principe Actif qui était accueillie avec grand plaisir. Mais où ça donc, Nathalie ?
Eh bien, au musée d'Évreux, musée archéologique d'Évreux, accueilli donc par la conservatrice, par Florence Calame-Levert. Et nous étions, voilà, JC, tu as ouvert les micros pour notre accès à la salle qui se trouve au deuxième étage. Et là, c'était vraiment toute notre déambulation dans les couloirs, dans les coulisses du musée, où là, on a pris donc l'ascenseur et la partie, on dirait, non accessible aux visiteurs.
Alors tu parlais de nos déambulations, mais nos élucubrations également autour de la paresse, ce qu'on entendait derrière.
Oui.
Voilà. C'était les vœux, je crois, de...
Les vœux reçus par le musée, mais venant du...
Le musée des impressionnistes de Rouen, je crois. Voilà, qui représentait une femme à Langui. Et donc, c'est, l'équipe du musée de Rouen souhaitait une année paresseuse. Et voilà, du coup, on a trouvé ça assez rigolo et plutôt sympathique. Et en plus, voilà, l'idée de prendre le temps, c'est aussi un peu le principe de scène de vie, vie de scène.
Exactement. Première pause musicale et nous aurons Pierre Carniaux à notre téléphone juste après.
J'arrive en Lamborghini, jambes chromées, des filles en bikini, des flingues, tu me reconnais? Chaque fois que je pense au putain de Mike, je suis vénère. J'ai des flingues, j'ai des tas de mailles, je suis célèbre. Ma chaîne ne fait que briller. Je me mouche avec des billets car je suis un gangsta. Photo, je suis un gangsta.
Coupez la femme. Qu'est-ce que tu fais là?
Mais t'es malade?
Non mais. Oli, si tu veux marcher dans le rap, aujourd'hui il faut faire ça. Il faut des grosses bagnoles, des filles.
Flo, c'est pas ta voiture, c'est notre cousine, Flo.
Je sais.
Donne-moi ça, je vais t'expliquer.
Ok.
J'ai rien d'un gangsta, j'ai pas de shit, j'ai pas de coke ni d'héro. J'ai pas de crew, j'traîne pas, faut que j'brosse mon interro. En soirée, mes potes se la jouent bière et vodka. Et Big Flo, c'est moi un grand verre de coca. Et puis tu me files un flingue, j'sais même pas m'en servir. J'fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis. J'ai déjà pleuré de 20 films, holy mélancolie. Moi j'suis allé en prison, mais qu'au Monopoly. J'avoue, je barbe devant leurs clips, leurs bling bling et leurs photos. Tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo. Pas le temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord. Et dans mon clip, tu verras qu'un labrador. Et je gratte dans le métro, pas la taille d'un héros. Couché tard, le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise. Mais le sourire aux lèvres, je vais terminer mon 16. Et j'suis pas. Et j'suis pas, et j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas, j'suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. J'suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, j'suis comme toi. J'suis pas un gangsta. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau.
Les classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Je me réveille tranquille, normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé, normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel Pops. À peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Dessert avec les amis, s'il vous plaît aidez-moi. Ouais, je suis un geek, je crois que j'ai raté ma vie à cause de GTA. Moi je connais par cœur les casques de Bryce de Nice. Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price. C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire. C'est moi le grand, mais on prend pour le petit frère. Je suis pas un gangsta, pas de flingue de ganja. Lève ta main si t'aimes ça. Toi, tu veux que je boive, que je baisse, que je fume. Mais ferme ta gueule et passe le chouette, ça grume. J'ai pas la vie de rêve, je suis pas un type à l'aise. Mais le sourire aux lèvres, je viens terminer mon 16.
Et je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. J'ai pas le fric, j'ai pas le style, j'ai pas les bras, mais les gangsta kiffent ça. Je suis pas un gangsta. Pas la peine de mentir, je suis comme toi. Je suis pas un gangsta. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau. Freestyle sous le préau.
Dans mes classiques, je les connais. Dis-moi pourquoi t'es étonné. Bienvenue dans mon quartier, attention les yeux. Y'a beaucoup de morts parce qu'y'a beaucoup de vieux.
J'suis pas un gangsta, ouais j'suis fou d'admettre. Ils parlent tous de flingue mais ne tirent jamais. Pourtant j'fais bouger les têtes, tu connais mes textes, connais pas ma technique. Mec mettez qui j'étais le bingo, connais vos lingues, ouais évitez le bingo. Mat mon nez qui s'avoue les boulots, ouais ça les dégoûte. Du canon, des boules comme des fous dans la foule, mais mon pote s'écoute. Toi tu restes à l'écoute, on se serre les fous, nos frères font des fous.
Comme toi. Alors JC, nous écoutions notre première pause musicale de l'émission.
Alors c'était Big Flo et Oli, deux très jeunes rappeurs de 18-19 ans qui ont une écriture très particulière à laquelle j'ai été sensible, mais pas immédiatement, étonnamment. Ils avaient un titre, Monsieur Tout le Monde, qui a été le titre qui les a fait connaître il y a là, 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pas sur ce titre-là que j'ai accroché, mais en tout cas un regard sur le milieu du rap assez juste, assez frais, et puis surtout ira bien, et ils sont très jeunes, d'où cette particularité. C'est Big Flo et Oli, ils ont sorti un album en cours d'année rap 2015, enfin début d'année 2015 ou fin 2014 peut-être, en tout cas c'est encore assez frais, on peut se le procurer, et ce sont deux très jeunes artistes à découvrir, vraiment. C'est quelque chose que moi j'ai apprécié très particulièrement.
Big Flo et Oli, et le morceau qu'on vient d'entendre, c'est
Gangsta.
Ah bah voilà, j'allais dire je suis pas un gangsta, mais non.
Non, c'est Gangsta, bien entendu. Une critique assez pointue sur l'univers du rap.
Ah bon ? Non.
Voilà. Moi j'aime bien, c'est freestyle sous le préau, c'est la phrase qui revient à la fin du refrain, freestyle sous le préau. Bah oui, sûrement qu'ils sont encore en études, ces jeunes. Nous avons tenté d'appeler Pierre là tout de suite, sans succès. Je vous propose que nous écoutions la toute première partie du reportage que nous avons tourné hier au musée d'Evreux sur les bijoux d'Elsa Triolet, dont l'exposition est encore sur le musée jusqu'au 3 avril prochain. Donc voilà, il a été découpé en deux parties ce reportage. Je vous propose qu'on écoute tout de suite la partie qui présente plus Elsa Triolet, bien entendu sous l'angle des bijoux, mais qui présente globalement qui est Elsa Triolet et quelle était sa façon d'aborder les choses. Puis la deuxième partie que nous retrouverons un peu plus tard sera autour proprement parler des bijoux. Tout de suite, eh bien, Florence Calame-Levert, conservatrice du musée d'Evreux, qui nous parle d'Elsa Triolet.
Peut-être mettre en contexte, puisque ici on est dans le sas introductif de cette exposition consacrée aux bijoux d'Elsa Triolet, qu'elle a réalisée entre 1929 et 1932. Elsa Triolet, tout le monde la connaît, parce qu'elle a été la femme, la muse de Louis Aragon, le plus grand poète du XXe siècle français. Et puis, en définitive, je me suis rendu compte que tout le monde la connaissait sans la connaître. Et plutôt que de commencer d'emblée à parler d'Elsa Triolet et puis d'arriver à découvrir sa biographie dans un énième panneau au bout de l'exposition, je me suis dit non, on a une très belle collection de photographies. Alors ce sont des photographies vintage, ce sont des originaux qui retracent une grande partie de sa vie, qui nous ont été prêtés par la maison de Louis Aragon Elsa Triolet à Saint-Arnoult-en-Yvelines, et ces photographies illustrent des moments forts de sa vie, si vous voulez, voilà, pour d'emblée faire le point sur qui était Elsa Triolet. Donc ici, nous avons une photographie qui est datée de la fin des années 10. Elle est représentée avec sa sœur, Lily Brick, qui a été l'une des grandes personnalités, l'une des grandes muses de l'avant-garde artistique russe. Elles sont costumées ici avec des costumes inspirés des costumes traditionnels russes. On la voit ici on la voit ici après la Seconde Guerre mondiale, au moment où elle reçoit son prix Goncourt 2015, date de l'ouverture de l'exposition, correspond aux 70 ans de son prix Goncourt. Elle a reçu le prix Goncourt en 1945 pour l'année 1944, pour un recueil de nouvelles qui s'intitule « Le premier accro coûte 200 francs », nouvelle qu'elle a écrite lorsqu'elle est dans la résistance française et au moment de la clandestinité qui paraît après la guerre. Et c'est la première fois qu'une femme obtient le prix Goncourt, donc qui est intitulé également Prix de la Libération. On la voit ici avec autour du cou l'un de ses colliers. C'est une photographie du début des années 30, une jolie photographie où on la voit de profil. Alors évidemment, tout ça, ce sont des photographies vintage, ce sont des originaux. Là, un grand nom de la photographie du XXe siècle, Willy Ronis, qui la représente avec... je me souviens plus de son prénom, la femme de Fernand Léger, Sonia Léger, elles sont dans le parc du jardin, enfin dans le parc de la maison de Saint-Arnoult, et elles enlacent ce chêne. C'est une très très belle photo, elles sont toutes les deux avec des manteaux de fourrure. À l'époque c'était pas tabou de manteau. c'est une femme élégante, hein, Elsa Triolet, on reviendra là-dessus. Et ici, ce grand portrait de Isis, où elle est représentée avec Aragon, qui est un très très beau portrait. Et puis ici, un portrait d'Aragon. Là, on est après la mort d'Elsa Triolet. Elsa Triolet décède en 1970. On est dans le jardin de la maison, de leur maison, à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Louis Aragon, très, très dandy, hein, très élégant. Et puis, dans cet environnement très obscur, sur fond d'arbres, on aperçoit aussi la maison, et puis des oiseaux. Et symboliquement, ça m'intéressait aussi les oiseaux, parce que Elsa Triolet elle utilise souvent la métaphore de l'oiseau. Souvent aussi, elle a des surnoms. Elle signe, notamment, par exemple, quand elle est rédactrice de mode dans les années 30, elle signe, je ne sais plus son nom, mais c'est un nom d'oiseau. Et puis son dernier roman, c'est Le Rossignol sautait à l'aube. Voilà. Oui, on va s'approcher des vitrines, mais je voudrais vous dire encore une chose par rapport à la relation à l'écriture. Alors, ils font ces bijoux parce qu'ils n'ont pas d'argent, hein, on est d'accord. Donc c'est très court, hein, c'est entre 29 et fin 32. Tout début 33, ils ont décidé d'arrêter. Aragon est rentré comme rédacteur en chef au journal Ce Soir. Ils peuvent respirer, ils ont un petit peu d'argent. Elle va se mettre à écrire un témoignage sur son activité de parurière. Alors, c'est un témoignage écrit, bien sûr, qui s'intitule Collier. Elle l'écrit en russe à destination d'un public moscovite. Elle se présente, alors là, c'est l'avant-garde littéraire, encore une fois. Elle se présente en ethnologue, en journaliste, mais elle utilise le terme ethnologue. Voilà. Elle dit, c'est un manuscrit qui fait à peu près 120 pages. Elle dit, moi, je suis russe, j'ai la distance culturelle pour observer cette société française. En ethnologue, je vais regarder à travers une activité très 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 banale, très
ordinaire.
Oui, très peut-être ordinaire. À travers cela, je vais révéler la société française dans sa globalité. Parce que lorsqu'elle crée ses bijoux, elle fait tout, hein. Elle va chercher la matière première et elle va les vendre dans les hôtels particuliers des grands couturiers. Et cette activité l'a fait passer donc des arrière-cours absolument misérables du quartier du Sentier, où elle va chercher dans les stocks des perles, des choses originales pour créer ses colliers, où elle va découvrir la misère parisienne, et à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, elle va découvrir le monde du luxe, de la mode parisienne de cette époque-là. Donc elle dit, moi, je suis ethnologue et je vous raconte ça, et à travers cette petite activité, je vous révèle la société française. Je vous la révèle d'autant plus que moi, je suis écrivain, que mon compagnon est écrivain, et que dans cette société française, n'oublions pas que l'écrit est destiné à un lectorat soviétique. Dans cette société française, à la fin des années 20, un artiste n'a pas les moyens de vivre. Il est obligé de faire autre chose, alors que chez nous, en Russie, dans la Russie soviétique, un artiste peut rester un artiste. Bon, évidemment, il faut nuancer tout ça. Je ne fais que rapporter ces propos. Voilà. Alors, ce bouquin, elle l'écrit en russe. Très, très vite, il est fait. Et Maxime Gorki l'aide à le publier, mais malheureusement, il ne sera jamais publié. Il ne sera publié qu'après sa mort, en français, dans une traduction qu'elle n'a pas faite elle-même, mais dans une traduction de Léon Robel, donc en 1972, dans le cadre des œuvres romanesques croisées. Alors, ce témoignage a été extrêmement précieux pour comprendre comment elle fait, pourquoi elle fait ça, techniquement comment ça se passe. C'est vraiment très, très... Et là, ça correspond aussi à cette écriture des avant-gardes qui veulent renouer avec une écriture journalistique. En même temps, Elsa Triolet, elle a quand même une culture très classique et si vous voulez, si on lit bien ce récit, on se rend compte qu'il est construit comme un conte. Comme un conte qui nous parle de bijoux, avec toute la magie du bijou, bien sûr, mais comme un conte qui nous parle aussi du mot. Alors là, suivez-moi bien. Elle dit le mot comme une espèce d'objet de sésame magique. Elle raconte comment ça s'est passé. Elle dit, un jour, j'étais dans une galerie à Paris. Autour du cou, j'avais un collier. Un collier que j'avais fabriqué moi-même, mais bon, sans prétention. Un monsieur vient vers moi et me dit, vous avez un joli collier, madame. Où l'avez-vous trouvé? Et elle répond, c'est moi qui l'ai fait. Le monsieur lui dit, est-ce que vous voudriez en faire beaucoup et les vendre ? Et elle dit, oui, j'aimerais beaucoup. Et il sort de sa poche une carte de visite et il lui dit, donnez cette carte de visite de ma part au couturier, au grand couturier français, et vous pourrez, ça va être comme un sésame, et vous allez pouvoir en vendre beaucoup. Ce qu'elle a fait, elle est arrivée chez Poiret, le grand couturier de l'époque, elle a présenté sa carte, et toutes les portes se sont ouvertes. Mais elle présente ça, il y a aussi le storytelling, bien sûr. Elle présente ça, et donc dans son ouvrage, si vous voulez, elle nous parle de bijoux, mais en même temps, elle nous parle de la force du mot, de la magie du mot, et puis elle parle de... Bon, là, je prends l'exemple le plus flagrant, mais elle met en scène le mot, elle met en scène son amour des mots, son amour de la littérature, pas de la littérature, mais du mot, vraiment, dans une dimension très moderne. Et ça me semblait absolument passionnant, et dans le cadre du catalogue qui accompagne l'exposition, on a beaucoup réfléchi autour de ces thématiques-là. Le bijou, il est, rappelez-vous, Maupassant, Flaubert, Zola, plus proche de nous, Louise de Villemorin. Le bijou est ce qui assigne à la femme un statut social. Un statut social de femme, d'épouse d'eux, un statut social de maîtresse aussi, puisque le bijou, ordinairement, c'est un objet précieux que la femme se fait offrir, et du coup, dans une certaine mesure, qu'il l'enferme, qu'il l'emprisonne dans un statut de femme. Je vous disais tout à l'heure que sa position de femme seule dans les années 20, c'est aussi une volonté d'être une femme libérée. Elle crée des bijoux pour ces femmes-là. Ce sont des bijoux que les femmes... Bon, ils ont un certain prix, parce qu'ils passent par les réseaux de la haute couture, etc. Mais ce sont des bijoux que les femmes peuvent s'offrir à elles-mêmes. Hein. Et puis, je parlais de la femme dans son rapport à l'homme, qu'il soit l'époux ou l'amant. Mais c'est aussi le bijou, ça assigne aussi une place dans la descendance familiale. Hein. En règle générale, on va hériter, surtout dans les mondes bourgeois, on va hériter du bijou de sa mère, de sa grand-mère, etc. Donc ça assigne aussi la position de la femme dans une descendance. Voilà. Là, on libère la femme de tout ça.
My heart is sad and lonely. For you I pine, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Spend my days in such longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you and I mean it, I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you'd turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I tell you and I mean it, I'm all for you, body and soul. Do,
Nous écoutions Body and Soul de Cecil McLaurin Salva. C'est une chanteuse de jazz américaine et qui a une actualité en Normandie puisqu'elle sera en concert le mardi 26 janvier au Hangar 23 à Rouen. Je vous conseille d'y aller.
Notre invité téléphonique, Pierre Carniaud, est en ligne avec nous.
Bonjour Pierre Carniaud, on le disait en début d'émission, vous êtes le programmateur de la scène nationale Évreux-Louviers et en ce début d'année 2016, le cinéma prend toute sa place, s'installe tranquillement mais sûrement à Évreux. Et donc on vous accueille par téléphone aujourd'hui pour nous parler des différents rendez-vous. Donc on le disait, ça a commencé déjà hier avec dans le cadre des Ciné Plus et la carte blanche à la scène nationale Évreux-Louviers avec Night of Cups de Terrence Malick, qui est le dernier film de Terrence Malick. En préparant l'émission, vous nous disiez que ce film était presque passé inaperçu.
Oui, à mon grand étonnement. Bonjour à tous les trois, très heureux de vous entendre.
Bonjour.
Alors oui, depuis hier, les Ébruiciens et les gens de la région ont la possibilité de voir le dernier film de Terrence Malick, qui est, à mon sens, peut-être un des cinéastes les plus ambitieux et les plus importants de notre époque. Terrence Malick, en deux mots, c'est quelqu'un qui a commencé à faire du cinéma à la fin des années 70, qui avait eu un grand succès dès le départ avec ses deux premiers films, La Balade Sauvage et Les Moissons du Ciel. Donc ça c'est 78-79, Les Moissons du Ciel, et après il disparaît pendant 20 ans, et on l'a retrouvé en 98 avec La Ligne Rouge, qui avait reçu l'Ours d'Or à Berlin, et plus récemment, on se souvient qu'il avait reçu la Palme d'Or en 2011 pour Tree of Life. Voilà, et Night of Cups, donc son dernier film, est un film dont, a priori, la scène nationale Évreux-Louviers, c'est pas un film que je m'attendais à soutenir à ce point-là, puisque c'est un film avec des stars hollywoodiennes, avec Christian Bale, avec Natalie Portman, avec Kate Blanchett. D'habitude, la scène nationale, au sein de ses cartes blanches, défend des films plus fragiles. Hein, pour mémoire, on a commencé la saison avec un film thaïlandais, un film philippin, un film chilien. Alors, pourquoi ce choix? Eh bien, parce que, comme je le disais, c'est un cinéaste absolument majeur et que, effectivement, à mon grand étonnement, alors que le film, lorsqu'il est passé à Berlin en février dernier, avait fait évidemment l'événement, c'est-à-dire que tout le monde s'accordait à dire que c'était un geste qui se situait au-dessus de la mêlée, qui survolait un peu l'ensemble de la compétition, même s'il est reparti sans prix. Hein. Lorsqu'il est sorti, donc il y a un mois, à Paris, j'ai été très étonné de voir que une partie de la critique, hein, pas toute la critique, mais une partie de la critique faisait un peu la fine bouche, disant que Malick, en fait, répétait depuis Tree of Life le même geste et que il tournait en rond. Alors, je m'étonne puisque est-ce qu'on reprocherait un peintre, par exemple, comme je sais rien moi, Picasso, de creuser son geste de peintre? Est-ce qu'on reproche à un chorégraphe, à Pina Bausch, par exemple, une grande chorégraphe, d'avoir creusé son geste tout au long de son parcours artistique? Non, il y a pas de raison. Là, c'est justement c'est un geste qui est unique, qui est totalement singulier dans le paysage cinématographique, à savoir que c'est un cinéma avec une immense ambition philosophique, spirituelle, et qui se détache progressivement de l'intrigue. C'est-à-dire que on est face à un flot d'images, on a l'impression d'être à l'intérieur de la conscience d'un homme, de la mémoire d'un homme, qui est traversé par ses souvenirs, ses émotions, qui se pose la question du sens de l'existence, et que on est face à une œuvre qui est presque musicale. Et donc, du coup, moi, je me lasse pas, puisque c'est pas la question de l'intrigue, de l'histoire qui est importante. C'est vraiment la question de l'instant et de l'émotion. Et du coup, moi, c'est un film par lequel je pourrais rentrer par le milieu, par exemple. J'ai pas besoin de le prendre au début. Je peux rentrer par le milieu exactement comme j'écouterais un mouvement d'une symphonie, par exemple. Voilà. Alors, pour vous donner un petit peu envie, j'avais envie de vous lire le conte qui a inspiré le film. Il était une fois un jeune prince que son père, le souverain du royaume d'Orient, avait envoyé en Égypte afin qu'il y trouve une perle. Lorsque le prince arriva, le peuple lui offrit une coupe pour étancher sa soif. En buvant, le prince oublia qu'il était fils de roi, il oublia sa quête et il sombra dans un profond sommeil. Voilà.
C'est un film comme un rêve, en fait.
C'est un film comme un rêve, absolument. Et c'est un film dans lequel donc Christian Bale interprète un scénariste qui se trouve au milieu de la Babylone hollywoodienne et qui se demande s'il a véritablement vécu les 30 dernières années de sa vie et qui ne se souvient plus l'homme qu'il voulait devenir. C'est-à-dire qu'il a oublié sa quête et qu'il est dans ce sommeil profond dont parle le conte. Voilà, et je vous invite donc à profiter de ces 5 séances exceptionnelles à Évreux. Enfin, il en reste 4 maintenant, puisque le film donc est invisible, hein, même à Paris maintenant. Il est resté 3 semaines, 4 semaines à l'affiche. Et je vous invite particulièrement à nous rejoindre lundi soir au Pâté Évreux, lundi à 19h45, puisque nous aurons la chance, le plaisir d'être avec Ariane Godot, qui est une spécialiste du cinéma de Terrence Malick, qui a écrit un très beau livre sur la balade sauvage aux éditions de la Transparence. Et bon, voilà, encore une fois, je veux pas jeter la pierre à la critique. Il y a des gens qui ont défendu le film, hein. Positif a défendu le film, Les Inrecuptibles ont défendu le film. Ariane Godot le fait particulièrement bien, puisque elle rend compte de ce cinéma éminemment poétique avec une prise de parole qui est elle-même poétique. Ça va être un grand plaisir de l'écouter et d'échanger avec elle lundi soir, notamment pour cette raison, parce que c'est voilà, quelqu'un qui écrit sur le cinéma, qui a un vrai talent d'écriture sur le cinéma et qui à coup sûr saura nous faire partager toute la richesse, la luxuriance du cinéma de Malick, qui de plus en plus ressemble à un flot d'instants de grâce, quoi. Et qu'est-ce que c'est difficile au cinéma de saisir ces instants de grâce. Voilà. Venez lundi soir,
Night of Cups. Voilà, 11 janvier 19h45. Et puis, on continue de dérouler la semaine sans oublier personne, puisque mercredi a lieu le deuxième rendez-vous Ciné Plus Junior, donc pour les écoles, mais aussi pour le tout public, mercredi 13 janvier, avec L'Enfant Sauvage de Truffaut. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, pareil, encore une fois, le choix de proposer ce film de François Truffaut à des enfants du 21e siècle. Voilà, je vous pose la question comme ça, sans pincette.
Alors, pourquoi ? Donc, L'Enfant Sauvage. Alors, faut savoir que pour cette saison, j'ai travaillé avec la scène nationale, on a travaillé sur une thématique qui est celle de nos croyances. Il me semble que c'est une question d'actualité, hein, je n'ai pas la peine d'expliquer pourquoi. Du coup, L'Enfant Sauvage, en deux mots, de quoi parle le film pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est l'histoire vraie de cet enfant loup qu'on a retrouvé à la fin du XVIIIe siècle en pleine forêt et qu'un docteur parisien a tenté d'éduquer. Et du coup, effectivement, le film de Truffaut se présente un peu comme un documentaire, on a vraiment l'impression d'y être. Pourquoi présenter ce film-là à des enfants du XXIe siècle? Mais tout simplement parce que ça pose une question que l'homme se pose depuis qu'il est homme, à savoir quelle est l'essence de l'homme, quelle est la différence entre l'homme et l'animal, est-ce que l'essence précède l'existence ou est-ce que l'existence précède l'essence, quelle est la différence entre la nature et la culture. Mais c'est un film donc L'Enfant Sauvage, c'est un film d'une grande simplicité dans lequel les enfants vont pouvoir se projeter très facilement, hein, puisque forcément ils s'identifient à ce petit garçon qui se comporte comme une bête sauvage, et que à travers lui, ils vont pouvoir se poser ces grandes questions philosophiques, ces grandes questions existentielles, et que voilà, le rôle des œuvres d'art, c'est aussi de faire le lien entre les siècles et de répéter des questions et de se reposer à nouveau les questions comme si on se les posait pour la première fois. Et les enfants, évidemment, pour certains enfants, peut-être que à l'occasion de cette séance, ce sera la première fois qu'ils se poseront ce type de questions.
Voilà, nous accueillerons nos petits sauvageons mercredi.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir. Au cinéma, oui, pardon, Pierre.
Ouais, on se réjouira aussi du coup que nos petits sauvageons, puisque il me semble qu'on attend pour la matinée de lundi, hein, on attend plusieurs centaines d'enfants. On se réjouit aussi qu'ils voient un film en noir et blanc, un film de François Truffaut, et puis quand ils deviendront des adultes, ils auront peut-être encore ce souvenir qu'ils ont vu un film en noir et blanc, et puis que c'était pas moins bien que la couleur, et que ils ont vu un film d'un monsieur qui s'appelle Truffaut, et puis peut-être ils auront envie de voir d'autres films, et ainsi peut-être qu'on aura une nouvelle génération de cinéphiles à Évreux. Voilà.
Alors, autre rendez-vous et dernier rendez-vous de cinéma, c'est donc samedi 16 janvier, avec une journée consacrée à Tarkovski. Alors là, monstre du cinéma et réalisateur majeur dans l'histoire du cinéma international mondial. Là, ce rapprochement entre nos croyances, Tarkovski, qu'est-ce qui vous a fait tirer le fil pour présenter cet auteur et ce réalisateur majeur du cinéma?
Nos croyances, du coup, Tarkovski, c'était un peu l'évidence, hein, puisque Tarkovski s'est toujours beaucoup interrogé sur le sens de la foi et l'essence de l'art. Sur le sens de la foi, je pense que justement, c'est quelqu'un qui nous rappelle que il n'est pas obligatoire d'avoir un sentiment spirituel que pour avoir un sentiment spirituel, on n'est pas obligé d'être dans un dogme religieux. Je pense que chacun d'entre nous, en fait, a une relation au monde qui est d'ordre spirituel et qui passe pas forcément par le dogme d'une ou deux religions. Et voilà, là, Andrei Rublev, c'est l'histoire d'un moine hein, russe au XVe siècle qui est aussi peintre d'icônes et qui a été éduqué, qui a été élevé, qui a fait sien des préceptes qui sont ceux d'amour et de fraternité. Sauf que lorsqu'il sort de son monastère, il est confronté à des luttes fratricides, à des massacres, et que ça ébranle énormément sa foi dans la vie, dans l'homme, dans le monde, sa foi dans l'art. Donc à un moment du parcours, il fait même vœu de silence hein, et renonce à peindre. Et il a besoin de traverser un certain nombre d'épreuves ou d'observer un certain nombre de phénomènes pour finalement revenir au sentiment d'amour et de fraternité.
Alors voilà. Le temps passe très très vite là, donc c'est passionnant. Je conseille vraiment à nos auditeurs de poursuivre cette conversation avec vous et avec l'intervenant que vous avez choisi pour cette journée.
Samedi 16 janvier pour Andrei Rublev, on aura la chance de retrouver Sam Azulis, qui est docteur en philosophie et qui est notamment spécialiste de la question de la pensée magique au cinéma, qui est un homme passionnant, hein, qui enseigne dans différentes universités, qui écrit. Les gens qui l'ont déjà eu la chance de l'écouter au Pâté Heureux lors de précédents événements savent à quel point Sam est quelqu'un d'absolument passionnant.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Pierre Carnio, de nous avoir présenté et donné vraiment envie avec votre passion sur le cinéma. On donne rendez-vous à l'ensemble de nos auditeurs sur ces trois événements. Merci et à lundi pour la première rencontre avec Knight of Cups.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt.
Throw up the tree. Near a river, near the sea. She brings her liquid straight to me. Springs from a rock underneath. Oh, sunny day and grass so green.
ZOC I Need Seed. C'était pas mal, non?
Parfait. Extrait de la bande originale du film Night of Cups, choisi par Cécile.
Très bon choix. Merci, Cécile. Nous poursuivons cette émission avec la deuxième partie de la visite de l'exposition des bijoux d'Elsa Triolet au musée d'Evreux, de Neige et de Rêve, le nom de cette exposition. Et je vous propose tout de suite que nous écoutions la deuxième partie qui est plus du coup sur l'exposition sur les bijoux en eux-mêmes. La première partie était plutôt consacrée à la démarche d'Elsa Triolet.
Alors, celui-là, c'est un bijou qui date de 1931. C'est un crin. Hein, c'est justement, on parlait de modernité. Donc, c'est un bijou qui est, c'est comme une écharpe de lin. C'est comme une écharpe de crin, puisqu'on a un matériau structurel textile, très très souple. Là, ça a vieilli, donc il s'est un petit peu durci, le matériau s'est durci. Mais en fait, il faut imaginer quelque chose qui ressemble fort à une écharpe, comme un sautoir très très souple. Et là, je vous renvoie à toutes les images qu'on a en tête aussi de Gabrielle Chanel, et de la mode, de la maille, etc. Des choses très très souples qui accompagnent le corps de la femme, juste avec quelques petits anneaux de verre qui viennent fermer l'ensemble, mais qui en même temps donnent un petit peu de poids et qui vont en même temps faire un petit peu de bruit, etc. Alors, ces bijoux en crin nous ont inspiré le titre de l'exposition De Neige et de Rêve. C'est absolument pas gratuit, De Neige et de Rêve. De Neige et de Rêve, c'est une formule que Elsa reprend dans Collier quand elle dit... en 1931, quand je présente ces bijoux à l'exposition des artistes modernes, un journaliste vient voir l'exposition et il relate dans son journal que ces bijoux sont faits de neige et de rêve. Donc, bon, évidemment, on a repris la formule pour donner le titre de l'exposition. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trois raisons. D'une part, parce que De Neige et de Rêve, ben, voilà, on a l'éphémère, on a l'impalpable du rêve, et qui correspond à l'aspect éphémère de cette mode, à l'aspect éphémère de la mode moderne, la mode telle qu'elle se définit là. Il y a aussi, elle justifie la création de cet ensemble, parce qu'elle en a fait plusieurs hein, en crin comme ça, elle a décliné vraiment plusieurs modèles. D'ailleurs, là, on a un rayographe de Man Ray qui en présente un accompagné de son bracelet. Elle justifie dans Collier en disant « Aragon, tous les matins, part à 6h avec la valise pour aller vendre les bijoux dans les sociétés d'exportation. Les sociétés d'exportation qui vont vendre pour Macy's à New York, qui vont vendre pour Harrods à Londres, etc., etc. Et ce pauvre Aragon, il a à peine le temps de prendre son petit déjeuner, il n'a pas le temps de se raser, et puis cette valise est vraiment très lourde parce que je fais des colliers avec des matériaux lourds. Or, cette année, pour épargner un petit peu de peine à mon compagnon, eh bien, j'ai décidé de créer une collection très légère de crin. Et là, pourquoi ça m'intéresse aussi ? Parce qu'on est encore une fois dans le storytelling. On sait combien Elsa Triolet a souffert d'être à la fin de sa vie. Bon, Agnès Varda a fait un documentaire qui s'appelle Elsa la Rose en 66, qui sera présenté d'ailleurs vendredi prochain à la médiathèque. Elsa la Rose sera présentée et on y voit Elsa Triolet donc en 66, à la fin de sa vie. Et elle est très... Comment dire ça de manière élégante ? Elle est en colère. Elle est en colère contre son mari, elle est en colère contre Aragon, parce qu'elle lui reproche d'en avoir fait un personnage poétique, et elle lui reproche d'avoir aimé ce personnage poétique, et de ne pas l'avoir aimé, elle, en tant que femme, en chair et en os.
Elle est artiste, hein, à la base. Hein, enfin.
Alors, elle a fait les Beaux-Arts à Moscou, et elle a une formation d'architecte. Elle travaille vraiment en designer, en architecte, dans la trois dimensions, dans les trois dimensions d'emblée, hein, et puis dans les trois dimensions, et avec aussi l'aspect, elle prend en compte l'aspect dynamique d'un corps de femme, quoi, en mouvement, etc. Et elle travaille beaucoup les matières, regardez, la délicatesse du contraste entre ces grosses pastilles de pierre reconstituée qui est très mate, et puis ces toutes petites perles de verre, de pâte de verre, très, très laiteuses et brillantes, et le contraste est très très élégant. Et alors, par exemple, elle s'inspire aussi beaucoup des arts extra-européens. À l'époque, quand elle crée ses bijoux, elle les crée à la maison, les bijoux, hein. C'est elle qui fait tout. Et Louis Aragon collectionne les arts africains et océaniens. Et elle est environnée, lorsqu'elle est en train de créer ses bijoux, et elle l'explique dans Collier, elle est environnée de ses statues, aux yeux de nacre, etc. Elle les décrit. Et évidemment, il l'influence beaucoup. Ce collier en pâte de verre jaune, et rouge et noir, est vraiment quelque chose qu'on pourrait tout à fait trouver sur un marché en Afrique de l'Est, ou même dans une vitrine au musée du Quai Branly. Ces deux colliers de cuir pourraient également figurer dans une section, je ne sais pas moi, par exemple, Inuit, au musée du Quai Branly aussi. Donc il y a à la fois l'influence des choses extra-européennes, de ce vocabulaire qu'elle s'approprie dans une avancée stylistique très moderne, et en même temps l'appropriation de caractéristiques et de motifs propres à la mode de cette époque, puisque là, elle a des tubes sur ses objets en cuir, ces colliers en cuir, ce sont des tubes de cuir qu'elle va couper tout simplement avec une perce de ciseaux, faire ses franges, et la frange est aussi un motif très très utilisé dans la mode des années 20 et début des années 30. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette exposition et dans l'analyse des bijoux, c'est évidemment le choix des matériaux, les matériaux détournés, des matériaux de peu, des matériaux pauvres, qu'on pourrait trouver dans des colliers de prise unique de l'époque, mais aussi et surtout le travail structurel. Et encore une fois, j'insiste sur vraiment, à mon avis, là où elle est le plus brillante, c'est vraiment dans l'organisation structurelle de ces bijoux. Par exemple, ce bijou-ci qu'on voit ici, il y a vraiment un travail, si vous me permettez la métaphore littéraire, entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'elle s'arrange toujours pour que, dans une manière traditionnelle, dans une conception traditionnelle du collier, on va avoir un lien sur lequel vont être disposés des ornements, des perles ou que sais-je. Ici, elle s'amuse vraiment comme une folle, hein. Elle s'amuse et on sent une jubilation à l'œuvre dans la création. Ce fil fait de toutes petites perles comme ça, de métal doré, eh bien, vient faire une boucle. Et la boucle elle-même est retenue par de petites perles. La perle qui devrait être ornementale devient structurelle, elle devient organisationnelle. Et le fil qui ne devrait être qu'organisationnel, structurel, par cette petite boucle, devient lui-même un ornement. Et sans cesse, elle joue de cela, et ça, je trouve ça absolument fascinant.
Ah oui, parce que c'est le fil principal qui est relié en petites, qui est à nouveau
c'est des boucles. Voilà, et les deux petites perles.
C'est le même, en fait.
Voilà, c'est un.
D'accord, ce n'est pas un rajout d'anneaux entre les perles blanches.
Pas du tout. C'est un seul et même fil. Voilà. Et ça, évidemment, nous aussi, on s'est amusé dans la rédaction des notices du catalogue, on s'est amusé comme des fous à jouer de la métaphore littéraire, puisque bien évidemment la métaphore littéraire elle est très très présente, quoi. Alors encore plus fort, et là c'est pas forcément un peu d'éclairage, encore plus fort, ce bijou là alors je trouve en la matière absolument extraordinaire, c'est à dire que nous avons un lien, une cordelette brune de coton qui est absolument présente, puisque il supporte des verles, des verles. Le mot valise est intéressant. Il supporte des perles tubulaires en verre. Bon, vous comprenez la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que dans le cabochon vient s'inscrire une boucle. Qui vient fermer le collier. Alors le cabochon, il est à la fois cabochon mais il est aussi fermoir. Donc on est face à un objet très, on dirait aujourd'hui, design, très très moderne, un vocabulaire esthétique absolument avant-gardiste pour le coup. Celui-là il m'intéresse aussi énormément. De quoi est-ce que Il s'agit d'un collier qui est structuré par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a pris, elle a pris un boyau de cuir dont elle a travaillé la surface pour obtenir cette espèce d'aspect filamenteux, comme ça, très très mat, qui ressemble à une noix de coco. Et la structure, vous avez bien compris que ce collier, il est structuré par son enveloppe extérieure, parce qu'elle prend un boyau de cuir, et à l'intérieur de ce boyau de cuir, elle va disposer des sphères, sans doute du cotillon, on n'en sait rien, on n'a pas fait l'autopsie. Et puis, à chaque fois qu'elle pose, elle positionne une sphère à l'intérieur, elle va disposer un anneau de verre noir, très très brillant, encore une fois, le contraste des matières, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un collier qui est structuré, bien évidemment, par... ce qui fait l'unité, c'est l'enveloppe extérieure. Alors là, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on sentait l'intervention de la main, de la rapport à la matière, etc. La plupart du temps, elle travaille avec des matériaux qui sont tout faits, des choses qu'elle trouve chez les fournisseurs de perles. Ici, c'est peut-être une exception. On a affaire ici à un collier de piscine qu'elle a vendu pour Schiaparelli. Dans ce tournant des années 20-30, c'est pas la crise pour tout le monde. Donc il y a des soirées piscines qui sont organisées, voilà. Et on a affaire ici à un bijou qui était destiné à orner les tenues pour ces soirées piscines. C'est un bijou qui est imperméable. Donc vous voyez, on a des fleurs comme ça. C'est tout simplement du coton qui est enduit de nacre liquide et donc en même temps, ce qui lui donne un aspect complètement aquatique comme ça. On a l'impression d'avoir affaire à des fleurs, des nénuphars, des choses comme ça. C'est assez imposant et c'était donc des colliers qui étaient destinés à orner les coups de ces dames de la bonne société lors de ces soirées piscines. Donc là, ça c'est vraiment c'est des choses qu'elle fabrique elle-même de ses propres mains, alors que pour la plupart des autres colliers, évidemment elle les fabrique de ses propres mains, mais le travail de création il est beaucoup plus sur le contraste des matériaux les uns par rapport aux autres et dans la structuration. Alors que là, on a vraiment affaire à quelque chose de plus, voilà, de plus tactile comme ça. Ah oui,
elle
alors
est
vous voulez qu'on dise un mot de...
Oui, bah...
Alors, allons dans la grotte.
Cécile a trouvé un endroit, c'est ça?
Ah bah oui, forcément, on voit des choses écrites sur les murs.
Regarde, dit-elle...
Ah, ça me rappelle quelque chose.
Regarde, dit-elle, celui qui aime, écrit sur les murs. Alors, c'est un extrait, donc cette citation-là, c'est un extrait de la nouvelle Les Amants d'Avignon qui figure dans le premier accro Coupe de 100 francs, donc le prix Goncourt, et qui met en scène l'histoire d'amour entre un homme et une femme et qu'on a reproduit ici. Et l'idée dans cette pièce, c'était de... Donc là, on a affaire à du graffiti. Ce sont à la fois les paroles et les écrits d'Elsa Triolet qui justifie le prétexte. Hein. Et après, ce sont les mots d'Aragon, essentiellement extraits des yeux d'Elsa, et qui font de Elsa Triolet, encore une fois, un personnage aussi poétique. J'avais envie de terminer sur Elsa Triolet comme muse poétique et comme personnage poétique, et à travers les mots d'Aragon. Et on s'est amusé ici à écrire sur les murs des morceaux choisis des yeux d'Elsa. Et puis, alors peut-être qu'on peut en lire un passage là, qui sont relatifs à ces bijoux. Donc c'est Aragon qui écrit « Tu faisais des bijoux pour la ville et le soir tout tournait en collier dans tes mains d'opéra. Des morceaux de chiffon, des morceaux de miroir, des colliers beaux comme la gloire. Beaux à n'y pas croire, Elsa valse et valsera. J'allais vendre aux marchands de New York et d'ailleurs, de Berlin, de Rio, de Milan, d'Ancora. Ces joyaux faits de rien sous tes doigts d'orpailleur, ces cailloux qui semblaient des fleurs, portant tes couleurs, Elsa valse et valsera. » Voilà, donc ça c'est évidemment, ça fait directement écho à tout ce qu'on vient de voir. Et je trouve que c'est un petit espace très émouvant. On l'a réalisé avec la collaboration des collègues et amis de la Maison des Arts. Pendant deux soirs, on s'est retrouvés ici, à la lueur de la bougie, et on a écrit comme si on était dans cette tour des Amants d'Avignon, ces mots, et on a fait des graffitis sur les murs.
Eh bien, bravo, des graffitis sur les murs du musée. Eh bien, nous aurons tout vu. C'était la visite de l'exposition Les bijoux d'Elsa Triolet, de neige et de rêve. C'est le nom de cette exposition. Merci à Florence Calame-Levert, la conservatrice de ce musée, pour la visite guidée. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, là, vous en avez écouté, on va dire 25 minutes en tout durant l'émission. La visite pour nous a duré bien plus longtemps et nous vous proposerons sur l'antenne de Principe Actif prochainement et à podcaster et à écouter l'intégralité de cette visite qui a duré un peu plus d'une heure et qui était vraiment passionnante. Voilà, vous en avez eu un extrait et on s'arrangera pour que vous retrouviez, l'intégralité de la visite sur notre antenne au bout d'un moment. Parce que quand même, on ne va pas garder ça pour nous, on va la partager.
Juste pour rappeler que l'exposition donc, de neige et de rêve est visible jusqu'au mois d'avril, je crois.
Jusqu'au 3 avril.
Jusqu'au 3 avril, voilà, elle est prolongée jusqu'au 3 avril. Donc vous n'avez plus d'excuses. Allez vous perdre au musée pour découvrir cette superbe expo.
Je rappelle que l'entrée du musée est gratuite. Oui. Et ça, ce n'est pas rien.
Nous n'avons plus le temps de l'agenda, mais on vous laisse vraiment à vos recherches et à consulter les sites internet des structures dont on vous parle. Pour finir, quand même, notre film de fin d'émission, Cécile, nous avons choisi
La bande-annonce d'une histoire de fou de Robert Guédiguian qui sera proposée dans le cadre des Ciné Plus au cinéma Pathé à partir du 28 janvier. Voilà, les 28, 29 et 31 janvier.
Cette émission touche à sa fin. Elle a été coproduite par la scène nationale Évreux-Louviers et Principe Actif. C'est toujours un plaisir d'ailleurs. Et le prochain rendez-vous, c'est le vendredi 5 février. D'ici là, on vous souhaite un bon mois de sortie.
Nous sommes de purs révolutionnaires, solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté.
Vos pères se vengeaient comme Telerian. Et au moins, ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres fossoyeurs.
Soyons les héritiers de Telerian et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien.
J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne.
Je te respecte pour ça.
Et pour le reste, tu me méprises.
Et on a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens.
A ramené bien cet attentat.
Il est parti rejoindre la lutte armée. Et à Beyrouth.
Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon.
Je me fous du peuple arménien.
C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça.
T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent ?
Tu dois arrêter d'y penser.
Les vrais hommes pensent.
La plupart des Arméniens sont contre la violence.
La plupart sont votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier ?
Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi.
C'est de la folie.
Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face... Je comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous.